plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
1, 2, 3, œil de lynx et tête de bois, plan large sur Jacques Rivette et ses mystères avec Hélène Frappa, David Farou, Charlotte Garçon et Marcos Oudal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, série d'été sur les francs-tireurs du cinéma. C'était le plus secret et donc sans doute aussi le moins connu des jeunes turcs de la nouvelle vague. L'ancien Saint-Just de la critique, féroce et tranchant au cahier du cinéma, théoricien fondateur de la modernité cinématographique, devenu le cinéaste des jeux de piste, des sociétés secrètes et des complots. Jacques Rivette est mort le 29 janvier de l'année 2006, il avait 87 ans, mais comme nombre des personnages de ses films, il était revenu en mars 2018 avec 5 de ses films les plus labyrinthiques ressortis en salle et en DVD et qui couvrent une période très précise de son œuvre de 1973-74 avec Céline et Julie vont en bateau au Pont du Nord en 1980-1981 avec au milieu Duel, Norrois et Merry-Go-Round. Une certaine façon, en s'entourant d'héroïnes filles du feu et du tonnerre, en s'abstrayant de la sociologie et en plongeant résolument dans la fiction la plus onirique, de survivre à la désespérance post-68 et aux si grises années Giscard. Plan large donc sur un moment de l'œuvre de Jacques Rivette dans lequel nous guiderons quelques grands rivettiens. La critique et romancière Hélène Frappa, autrice du premier ouvrage jamais consacré au cinéaste, en 2001, il était temps, Jacques Rivette, secret compris, et le maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles à l'École nationale supérieure Louis Lumière qui, il y a 20 ans et quelques, avait soutenu une maîtrise consacrée au film « Jeu, un point de vue » de spectateurs sur Out One et d'autres films parisiens de Jacques Rivette. En fin d'émission, Marcos Oudal nous évoquera un film rare de Philippe Garrel, sorti à la même époque en 1979 et pris Jean Vigo en 1982, L'Enfant Secret, édité en DVD et en Blu-ray, mais pour commencer, direction rue du Nadir aux Pommes, sa maison et ses fantômes.
Pas d'où je les sors, ceux-là. Mais c'est marrant parce que tu sais. Ils ont. Ils me disent quelque chose, tu vois, leur tête, elles sont familières. Ils viennent de loin.
Il y en a certaines.
De drôlement loin, et en même temps, ils sont pas du tout marqués par le voyage.
Mais en fait, ils reviennent d'où tes œufs de Zanzibar, mes œufs de Zanzibar.
Quand t'auras fini de avec tes enfantillages.
Et toi, tu peux causer, chérie.
Je sais pas si c'est un trou de mémoire, alors des rêves fumés.
Mais non plus.
Mais c'est mes vélos, hein. C'est mes limelots. C'est comme 4 images pétrifiées de pantins.
C'est ça, les pantins. Hein, ça gueule. Ça se bouffe des bambecs. Et ça tombe dans les pommes.
Hein. Et ça raconte des histoires. Et ça vire du gris au bleu. Et ça se passe.
Et ça s'enfile des escaliers dans tous les sens. Et pour lier la sauce, on colle un peu de sang. Ma chérie, ça baigne pour toi. Formidable.
Tu sais pas.
Non, pas encore. J'aime mieux pas savoir. C'est toi, hein. Ah, ça baigne bien.
Attends. Tu connais pas la meilleure.
Oh non, bah y'en a.
Je suis Tu sais, la demoiselle en blanc, hein? Oui. C'est une frangine à moi. Ma soeur jumelle, elle ressemble comme deux gouttes d'eau.
Celle qui a les mains pas tellement propres?
Ouais. Écoute, j'ai les épaules larges, mais enfin, je veux quand même pas tout endosser. Hein.
Eh ben, dis donc. T'en as des drôles de relations, toi, hein?
Dis donc, Poupoule, ça va, tu peux parler, parce que les tiennes, elles sont pas très limpides non plus, hein.
Comme quoi, on rigole bien chez Jacques Rivette. Ce sont Céline et Julie, Juliette Berthaud et Dominique Labourier. Dans Céline et Julie vont en bateau, ce film, Hélène Frappa, c'est le film que vous avez choisi pour ouvrir votre livre en 2001, Jacques Rivette, secret compris. En quoi c'est une bonne porte d'entrée dans le cinéma de Jacques Rivette.
Oui, c'est un peu l'origine du monde, je crois, on pourrait dire, en quelque sorte, même littéralement, puisque c'est quand même le féminin. C'est l'origine de l'œuvre de Rivette et même du cinéma, puisque c'est le théâtre, en fait. C'est-à-dire derrière ce qu'on entend dans ce dialogue, effectivement, hilarant, et c'est vrai qu'on a peut-être... Enfin, ceux qui connaissent peut-être pas très bien Rivette n'ont pas une vision de lui comme quelqu'un qui a pu faire ce film qui est un des plus drôles sans doute de l'histoire du cinéma.
Des plus joyeux aussi.
Joyeux, ce qui ne veut pas dire forcément drôle, jubilatoire, burlesque, oui, avec une dimension de mélancolie mais extrêmement joyeux. Et donc à l'origine, et d'où l'idée de commencer par là, il y a le théâtre en fait. Le théâtre qui est l'origine du cinéma, qui est... ce que le cinéma ensuite, enfin en tout cas pour un vrai cinéphile vampire comme Rivette, ce que le cinéma va dépasser, mais en l'intégrant. Donc c'est un roman de famille en quelque sorte, et en même temps c'est une manière de se moquer de tout roman de famille au sens psychologique du terme, puisqu'il y a le roman de famille du cinéma avec son ancêtre, le théâtre, donc le fait, enfin et le cinéma muet, hein, qui est en quelque sorte la vision primitive, la version primitive du cinéma, et puis un roman de famille qui est contenu aussi dans ce film, et on voit bien comment en même temps il y a quelque chose d'extrêmement politique là-dedans, qui consiste à opposer le monde ancien qui est mort, qui est surtout qui fait rire en fait, tellement il est ridicule, tellement il est poussiéreux, c'est toutes ces vieilles robes qu'on trouve au grenier, etc. C'est inspiré d'une nouvelle d'Henry James, le roman de quelques vieilles robes.
Il faut préciser pour les quelques auditeurs qui n'ont pas eu encore la chance de voir Céline et Julie, donc on a ces deux filles qui sont amies, un peu magiciennes toutes les deux, une illusionniste, une magicienne, et puis qui vont découvrir une maison hantée, une sorte de maison hantée au 7 rue du Nadir aux Pommes, 7 bis, pardon, rue du Nadir aux Pommes, dans lequel se joue de façon perpétuelle une sorte de pièce de théâtre avec un homme, deux femmes et une enfant et une gouvernante.
C'est un très bon résumé parce qu'on voit bien le côté d'abord complètement invraisemblable. En fait, elles sont pas amies, elles se croisent par hasard dans un square de Montmartre. Et il y a cette dimension complètement fictionnelle, folle, arbitraire, et en même temps une croyance qui fait qu'on prend... Moi, pendant longtemps, j'ai cherché la rue du Nadir aux Pommes, par exemple. Et Jacques Rivette m'avait raconté...
Elle est mythique, cette rue, maintenant.
Pensant réellement qu'elle existait. Et Jacques Rivette me racontait, quand je faisais ce livre, que pendant des années, il avait reçu d'une jeune fille de Californie qui avait vu le film à sa sortie, des dessins qui étaient inspirés directement de ce qu'on voit dans le film avec la main rouge, etc. Donc c'est vraiment c'est un film chamanique qui fait entrer. Bon. Et de fait, elles vont, grâce à un bonbon magique qui était bon, une espèce de vision du LSD du LSD de l'époque, une drogue, mais en fait qui est la drogue de la fiction, elles vont entrer dans un autre monde, un arrière-monde, un autre monde, qui est un monde composé de tous les films à l'ancienne, de tout le vieux théâtre, des films de Wyler, des grands escaliers qu'on descend, et en même temps d'une nouvelle d'Henry James, hein, qui s'appelle donc la première nouvelle d'Henry James, le roman de quelques vieilles robes, qui raconte la rivalité sanglante entre deux femmes, rivalité dont... une enfant va être la victime. Ça, c'est l'histoire de tous les romans d'Henry James, que les enfants sont la victime de la rivalité des adultes. Et c'est quelque chose qui touchait profondément Jacques Rivette et qui est en filigrane aussi dans tous ses films, puisqu'on peut dire qu'il est le seul cinéaste français, probablement, qui se soit, à ce point-là, perçu, projeté, au sens du cinéma, dans une femme, dans une jeune fille, dans une petite fille. Hein. D'où Lewis Carroll aussi, évidemment, qui est là, comme le personnage d'Alice qui court après un lapin, ça commence exactement comme ça. Et donc, c'est cette manière d'entrer dans ce monde magique et de faire vivre au spectateur une pure expérience magique.
Alors, il se projette dans une petite fille, il se projette aussi dans deux jeunes femmes, et ce film a quelque chose de très novateur à l'époque. Enfin, il n'y a pas beaucoup de films, on parle maintenant du test de Bechdel qui doit voir si un film est féministe.
Absolument.
Ou pas. Alors là, oui. Il le remporte au la main, le test de Bechdel. Il y a deux femmes qui ont chacune un nom, elles parlent ensemble, elles ne parlent pas d'un personnage masculin et elles sont amies, elles sont solidaires. David Farou, c'est un film qui résonne avec un moment aussi des années 70, de post-68. Est-ce que Jacques Rivette, qu'il le veuille ou pas, a capté la naissance du féminisme, par exemple, tout bêtement?
Alors, je ne m'aventurerai pas à répondre frontalement à votre question, mais un des sujets d'attrait pour moi du cinéma de Rivette, c'est loin d'être le seul, mais c'est que je crois qu'il prend très très au sérieux les sujets, y compris la politique, qu'il n'aborde, à ma connaissance, presque jamais frontalement, précisément parce que de tous les sujets, il y a lieu de respecter la singularité, l'entité, et Je crois que le titre qui a été donné pour la ressortie en salle, le titre générique, c'était La fiction au pouvoir, et je crois qu'on pourrait le dialectiser chez Rivette, c'est surtout les pouvoirs de la fiction qui sont mis en avant. La question du pouvoir elle-même n'étant pas pas directement posée ou traitée dans les films, mais plus incidemment ou de façon tangentielle. Et une des choses qui me frappe dans Céline et Julie, puis dans d'autres films dont on va être amené à parler, c'est que la politique justement n'est pas traitée directement, mais ça n'empêche pas que dans Céline et Julie vont en bateau, il soit question d'une émancipation. De l'émancipation de cette petite fille, prise en main par la complicité de ces deux femmes, dont la rencontre fait l'objet d'une première séquence que j'ai envie de qualifier de magique, où pendant 10 minutes, l'une se met subitement à suivre l'autre de façon parfaitement arbitraire, enfin sans qu'il y ait le prétexte, c'est un foulard qui est tombé par terre et qu'on veut lui rendre, mais que dès quelques instants, il n'est même plus question de lui rendre, mais plutôt de se cacher pour continuer à la suivre. Tout ça circule par des moyens tout à fait singulièrement cinématographiques. C'est que, comme il l'avait déjà fait dans La Religieuse, Rivette s'amuse à inventer une topographie imaginaire de Paris en faisant raccorder des zones qui sont tout à fait éloignées dans la réalité. Donc, c'est un de ces pouvoirs de la fiction que d'inventer un Paris imaginaire, d'organiser la rencontre arbitraire de deux personnes qui vont prendre en main le destin d'une petite fille qui est peut-être imaginaire d'ailleurs dans le film. Enfin, son statut n'est pas tout à fait déterminé et ce n'est pas le plus important de le déterminer. Le film nous embarque dans un jeu. Et à ce jeu qui, comme tous les jeux, sont très sérieux chez Rivette, ce qui se joue, c'est l'émancipation des personnages.
Mais pourquoi cette violence? C'est très joli, toutes ces fleurs. Je croyais avoir déjà dit à Mademoiselle Camille que les plus doux parfums ne sont pour les enfants que des odeurs malfaisantes. C'est très joli, toutes ces fleurs.
Je croyais avoir dit à Mademoiselle Camille que les plus doux parfums sont pour les enfants des odeurs malfaisantes.
Vous croyez? Ce qui est joli ne fait pas de mal. Mais puisque vous le dites,
mademoiselle prend des risques.
Je vous laisse les roses à cause des épines.
Tout ce qui est bon ne fait pas toujours bien. Mademoiselle prend des risques.
Je vous laisse les roses à cause des épines.
Ce qui est bon ne fait pas toujours du bien.
Alors, il faut dire que Céline et Julie ne se contentent pas de regarder hein, cette pièce perpétuelle, elles interviennent dedans, elles la perturbent, elles s'en moquent, elles s'échangent les rôles et la pièce bégaye, reprend de manière perpétuelle, mais perturbée et renouvelée aussi par l'intervention de Céline et Julie, Hélène Frappin.
Oui, quand l'histoire se répète, la première fois c'est une tragédie, ça c'est la répétition psychanalytique des névroses familiales, et la deuxième fois c'est une farce, et la troisième fois encore plus, on pourrait dire, et c'est Céline et Julie, on est directement dans la farce. Alors je pense que, moi je me souviens que Jacques Rivette avait été très marqué par un des plus beaux textes de la littérature, qui est la correspondance entre Henry James et Stevenson. Et dans cette correspondance, il y a un débat très important, je pense, entre James qui s'identifie à la petite fille et qui parle à Stevenson en lui disant « Vous écrivez des livres pour les petits garçons. Les petits garçons, les pirates, etc. » Et je pense que Rivette, lui, on pourrait dire qu'il y a deux genres d'artistes, hommes ou femmes, hein, c'est pas la question. Rivette a toujours... n'a fait que filmer ça, en fait. L'histoire d'une petite fille qui doit échapper à la malédiction du monde des adultes qui veulent littéralement l'empoisonner, enfin la buter, on pourrait le dire, littéralement dans Céline et Julie, qui doit se sauver d'une malédiction familiale pour finalement devenir une jeune fille, qui deviendra une jeune femme, qui peut-être deviendra, bon, il aurait voulu filmer adapter un roman de Balzac où il y avait une femme enceinte, il l'a pas fait, mais enfin, il y a toutes ces étapes du devenir féminin qui le hantaient. Je pense qu'il était même au-delà du féminisme, il était alors féministe, c'est évident, mais je crois que c'était même carrément au-delà, c'est-à-dire qu'il avait perçu, il voyait le monde à travers le féminin. Le féminin, pas au sens de, du sexe féminin, mais au sens d'une cosmologie, en fait. Hein, c'est-à-dire d'une opposition entre deux principes qui seraient le soleil, la lune. Il serait plus annonciateur maintenant de tout ce qui peut être du côté des sorcières, de cette obsession des fées, des sorcières, etc. Mais, tous ces films sont complètement, obéissent à cette alternance qui est à la fois tragique, magique et comique aussi, du soleil, de la lune, de la brune, de la blonde, etc. Et essaye de faire revivre au spectateur cette petite fille qui était en lui, parce que c'est ça en fait qu'on doit. Chacun doit retrouver, comme dans Lewis Carroll, écrivain, homme, mais peu importe, retrouver la petite fille qu'on avait en nous. Et ça, c'est ce que n'a cessé de faire Jacques Rivette. Et cette petite fille, une fois qu'on l'a retrouvée, il faut la sauver, parce qu'elle est toujours en danger, en quelque sorte. En tout cas, dans les films de Rivette.
Et se faire aussi retrouver chez ces comédiennes, chez ces actrices, la petite fille qui est en elle, c'est-à-dire dans le jeu, y compris dans le dossier de presse de l'époque, Juliette Berthaud dit « Nous réglions des comptes avec le mythe du cinéma. Jacques nous ouvrait les yeux sur la possibilité de se sortir de la condition d'acteur robot. » Charlotte Garçon.
Oui, mais là, effectivement, quand la petite fille grandit, et c'est le cas puisque les deux héroïnes sont des jeunes femmes. Ce qui est amusant, c'est que dans le récit, c'est qu'elles vont chacune émanciper l'autre à l'insu l'une de l'autre. Je m'explique, la première va rompre avec le fiancé très tradi et cucu, ami d'enfance qui veut l'épouser de la première, mais sans lui dire dans son dos, en se faisant passer pour elle. Et puis l'autre va rompre avec les types assez, des espèces de maquignons qui viennent repérer des talents au cabaret.
Jean Douché en impresario louche.
Voilà, où elle est illusionniste et où tout à coup elle se met à faire comme si elle était Céline. Non, faire comme si elle était Julie, et à donc faire ce numéro qu'elle ne connaît pas très bien. Et puis tout à coup, elle dit, mais qu'est-ce que, espèce de macro cosmique, allez vous faire voir. Vous, qu'est-ce que vous savez faire? Tout à coup, elle rompt la rampe, comme ça, du cabaret. Et elle dit, mais vous êtes là, mais vous êtes complètement inutile, etc. Donc en fait, cette question de l'émancipation, elle est à tous les niveaux. Et elle est évidemment aussi au niveau méta-narratif, puisque ces spectatrices qu'on entendait pouffer quand elles assistaient à cette espèce de spectacle rêve grâce à la drogue, aux bonbons, elles ont un statut d'auteur au fur et à mesure que le film avance.
Oui, il faut deux femmes pour faire une femme. Alors, ça peut être la fille et sa mère, c'était le projet Phénix, Pirandello, la femme jalouse de l'autre femme, et ça peut être aussi dans la fraternité, la sororité, le jeu, la camaraderie, les petites filles qui gloussent, les petites filles qui sont insolentes, beaucoup plus que les petits garçons d'une certaine manière, des jeux différents, des jeux des pirates, des petits garçons, etc. Et donc, il y a toujours cette idée, mais qui est très cinématographique, c'est Hawks, c'est les hommes préfèrent les blondes. Il faut une brune et une blonde. C'est structurel, en fait.
Alors, il a tout avalé, là. Toutes les histoires. Amsterdam, le trafic, tout ça. Même Amsterdam. Mais il a fait marraine. T'es pas arrivé à lui sortir. C'est pas vrai. Son con, c'est mortel. Qu'est-ce que tu veux? Ce sont des naïfs. C'est ça? Des naïfs.
Oui.
Remarque, t'es très forte. Faut pas le poids. D'ailleurs, personne ne fait le poids. Tu veux au juste, mais je te trouve très flatteuse aujourd'hui. Moi, je veux rien du tout. Bon. Et ben alors, je crois que... Oui, t'as plus besoin de moi. C'est dommage. Ça me change un peu les idées. T'en as marre de Carlotta? Oh, elle m'embête, celle-là. C'est la compliquée, cette histoire.
Ça m'étonne pas. Oh.
Tu sais, j'ai envie d'y jouer à mauvais tour.
Alors, on parlait de blonde, on parlait de brune. Là, c'est l'affrontement de la blonde et la brune. De Viva, la fille du soleil, et Lénie, la fille de la lune. C'est Bulogier contre Juliette Berthaud. À nouveau, c'est duel. Alors, il faut resituer un peu ces films qui sont ceux qui sortent en salle, enfin, qui sont sortis en salle la semaine dernière. Duel et Norrois, notamment, qui appartiennent à un ensemble qui est, qu'on appelait Scène de la vie parallèle ou Les filles du feu, selon, et qui est une sorte de... On peut le prendre de beaucoup de manières, mais aussi une déclaration d'amour au genre. C'est un jeu sur le genre.
Oui, alors c'est une période qui pourra faire rêver les cinéastes contemporains. C'est-à-dire une époque où un producteur pouvait, sur la base de quelques lignes de quatre films, obtenir une avance sur recette assez considérable pour donc un projet qui vraiment tenait sur rien. Jacques Rivette a toujours refusé d'ailleurs de donner des scénarios à l'avance sur recette et qui était un projet complètement fou de ces filles du feu à un moment où il était en effet dans un, il appelait ça le refus de l'extérieur. Donc il y avait eu Out, Out 1, donc ce film qui n'était pas le film de l'extérieur Out, mais plutôt le film des, on pourrait dire des paumés, ceux qui sont Out, par opposition, pour une, c'était une expression à la mode à l'époque, de,
être in, hein.
Voilà, être in, être
qui est,
out.
Qui est in, qui est out, voilà. Comme on chantait à l'époque.
Donc le out, c'était plus le zombie, le paumé, l'outcast, le paria, etc. Et pour aller encore plus loin dans ce monde des out, donc il est entré donc dans ces films qu'il appelait de refus du monde de la période contemporaine, c'est-à-dire à un moment où les années 70, les utopies des années 70 étaient agonisantes, et elles ont agonisé longtemps, et il y avait quelque chose de violemment mélancolique dans ce cadavre en fait des utopies qui étaient insoutenables sans doute, hein, pour ceux qui l'avaient vécu artistiquement et politiquement. Et il faut rappeler que pour le coup Jacques Rivette, quand il a été rédacteur en chef quelques années plus tôt des Cahiers du cinéma, a été le rédacteur en chef le plus avant-gardiste, mais aussi le plus politiquement pour le coup marqué, enfin le plus gauchiste on peut dire, hein, de l'époque, avant-gardiste aussi politiquement. Et donc, il fait ces films qui sont complètement stylisés, qui sont en effet sur le modèle des séries B, on peut dire, hein, qui reprennent un grand modèle sublime des années 50, c'était le studio Val Lewton, donc c'était un producteur hollywoodien.
Les films de Jacques Tourneur.
Voilà, de séries B. Et il était marqué particulièrement par deux cinéastes de l'écurie Val Lewton, qui étaient donc Jacques Tourneur et Mark Robson, particulièrement donc la septième victime de Mark Robson, dont il s'est beaucoup inspiré, et puis A Walk with a Zombie, Cat People, qui est aussi une grande déclaration d'amour au féminin, hein, enfin une identification, c'est-à-dire que Tourneur aussi s'identifiait complètement au féminin. Et donc ce sont ces films magiques, beaucoup inspirés aussi par des mythes celtes, hein, toute une série de délires en fait de l'époque, enfin de délires, et en même temps il était très érudit, Rivette, il lisait énormément tout ça, les livres de Jean Marcal, etc. Et donc ça donne ces films complètement stylisés, très hollywoodien finalement, sans les moyens hollywoodiens, mais avec un côté très hollywoodien, et qui vont chacun théoriquement respecter un genre, le film noir, la comédie musicale, bon, qui n'a pas été tournée, le western,
le film d'amour, qui a,
le film d'amour, la love story, mais il l'appelait love
story, qui a commencé à être tourné, et puis qui sera, c'est Marie et Julien, qui sera terminé, qui sera fait finalement des dizaines d'années plus tard,
exactement,
en faisant l'histoire de Marie et Julien.
Tournant alors complètement le dos au cinéma français de l'époque, il faut dire que c'était quelque chose de complètement révolutionnaire, et il a fait ça dans son coin, en quelque sorte.
Alors c'est très curieux, parce qu'on est à la fois dans un monde complètement mythologique, enfin là, l'affrontement de la lune et du soleil, on aura dans Norrois le film d'aventure, de pirates avec des costumes invraisemblables et tout ça, et en même temps on a quelque chose dans la mise en scène qui est extrêmement au présent, enfin il y a une façon presque naturaliste de filmer tout ça. Je me souviens dans Duel de ces alignements de consignes par exemple, qui deviennent tout d'un coup un pur décor de cinéma, mais qui sont là aussi en tant que consignes. David Farou, c'est un jeu permanent avec la mise en scène, on sait que c'est la grande question de Jacques Rivette.
Oui, alors j'aurais du mal à la caractériser comme naturaliste, même s'il y a des moments où on peut être saisi par ce que vous décrivez, je vous rejoins tout à fait, mais il y a une théâtralité qui circule dans toute l'œuvre de Rivette, et de façon un peu singulière dans la période qu'on est en train d'évoquer là, parce que autant dans des films antérieurs ou postérieurs, c'est tout à fait frontalement assumé dans le sujet même du film, il y a des personnages qui sont en train de répéter une pièce de théâtre, alors qu'ici, la théâtralité est plus dans les codes de jeu et de mise en scène, et pour nous donner accès à l'autre scène, par exemple dans Céline et Julie, ou même dans Duel, dans la façon dont la musique est mise en scène.
Parce qu'il faut le préciser, la musique qu'on a entendue dans cet extrait est jouée au piano en direct
par Jean Wiener,
qui est à l'image et qui lui-même ne sait pas ce qu'il va jouer avant que la scène ne soit tournée.
C'est ça, c'est tout à fait singulier quand même cette apparition de la musique, littéralement une apparition visuelle de la musique pendant que se joue une scène, parfois dans des décors tout à fait intimes, une chambre d'hôtel ou dans un coin du décor il y a un piano. Jean Wiener soudain improvise à vue. Et ça va se décliner sous d'autres formes dans les films suivants, on en reparlera, mais tout ça contribue à une théâtralité de la forme de la mise en scène qui doit se manifester de façon évidente sans empêcher notre immersion dans le récit qui nous invite là aussi toujours à un jeu, c'est-à-dire que je soupçonne que Rivette, d'après certaines de ses déclarations, s'ennuyait facilement au cinéma et lui, ce qui lui a permis de faire des films parfois longs, c'est que il relance sans cesse le récit dans des bifurcations et des directions inattendues, de sorte que c'est des films où on ne sait jamais une demi-heure à l'avance où on va être, ou même 5 minutes à l'avance où on va être dans les scènes suivantes.
Précisément, c'est ce qui est très curieux, cher Haute Garçon, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi en revoyant ces films, c'est que le spectateur a le sentiment que aussi bien les personnages que Jacques Rivette lui-même ne sait pas où ça va, il y a du rebondissement tout le temps, on ne comprend pas toujours ce qu'il se passe, il n'y a pas d'intrigue au singulier, strictement parler, mais il y a des intrigues et des complots et des histoires sans arrêt, ce qui fait qu'on a une expérience de spectateur assez unique sur
le
garçon.
Oui, parce que c'est une tension entre la dérive, le fait que le récit, on ne sait pas où il va et lui non plus, et en même temps la carte, le plan, la grille, le programme, etc. Et il nous met toujours dans les deux et qui sont imbriqués. Et on se dit à la fois, il y a des indices, il y a un jeu de pistes, il y a quelque chose, ça va nous mener à quelque chose. Puis on s'aperçoit à chaque fois que chaque indice mène au prochain. Et en attendant, d'un indice à l'autre, on a dérivé et on a vu, j'allais dire, on a vu du pays, enfin, surtout de la ville en l'occurrence. Donc c'est les deux, c'est une sorte de spatialisation. On attend du temps et du récit et en fait on voit de l'espace, on parcourt de l'espace. C'est un peu abstrait de le dire.
J'imagine que pour se mettre dans cet état, pour pouvoir faire être surpris par son propre film, on sait, vous le racontez dans votre livre, Hélène Frappa, qu'après la religieuse, il s'ennuyait parce que tout était écrit, donc il avait l'impression de refaire quelque chose qui était déjà fait, donc il crée des dispositifs pour inventer l'histoire au fur et à mesure, ce qui demande une disponibilité intellectuelle et physique immense. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne vous l'a sans doute pas dit, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a ce film donc qui aurait dû être un numéro supplémentaire de ces scènes de la vie parallèle, Marie et Julien, filmé avec Leslie Caron et Albert Finet. Il commence le tournage en août 1975, il le tourne 2 jours, je crois, et le troisième jour, il arrête. Alors, les images, paraît-il, c'est Claire Denis qui le raconte, puisque elle y était, elle était première assistante. Les images qu'on n'a jamais vues depuis étaient extraordinaires, il paraît, mais Jacques Rivette disparaît de son tournage, et ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois qu'il le fera.
Non, il m'en a parlé, en fait, très, très franchement. Et en fait, bon, à la différence de ce qui est dit dans le dossier de presse, il me disait clairement qu'il a complètement craqué, en fait. Il a été, donc, enfin, après, les assurances ont permis d'arrêter le film, etc. Mais il a littéralement disparu. C'était l'homme des disparitions, Jacques Rivette. Hein. C'est effectivement, dans mon livre, ce que racontait Suzanne Schiffman, c'est comment elle avait dû lui envoyer des lettres plusieurs fois, même menaçant de faire venir la police pour qu'il surgisse. Moi, je sais que j'ai fait pendant 2 ans un entretien, enfin, qui a donné un entretien court, mais enfin, très, très beau, hein, avec lui dans La Lettre du Cinéma, une revue qui a disparu, mais à laquelle je participais il y a presque 20 ans. Et j'ai dû plusieurs fois, où lui m'envoyait des lettres, enfin, il disparaissait constamment.
Oui, le jeu de piste est là, toujours avec lui aussi.
Le jeu de piste, et puis un rapport au monde, effectivement, qui est duel-le, c'est au féminin, il faut entendre, on ne l'entend pas nécessairement quand c'est pas le film de Spielberg avec des voitures et des mecs, hein, c'est duel-le avec des femmes et des éclipses, constamment l'éclipse de la lune, donc c'est un rapport au monde, en effet, fantomatique, à la fois de présence très charnelle quand on est là et en même temps d'éclipse, de disparition. Et il y a aussi quelque chose que je pourrais qualifier de, je ne sais pas si le terme est très juste, mais d'une forme de panthéisme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut dire une chose, c'est qu'on ne peut pas prendre le métro de la même manière, par exemple. Ce que vous disiez sur le naturalisme, on pourrait dire qu'il y a un côté documentaire. Quand on a vu un film de Jacques Rivette, notamment Duel, hein, je pense à ces stations de métro, Donc il y a un regard extrêmement aiguisé, une manière de voyante au sens rimbaldien de voir vraiment la réalité, l'aquarium du Trocadéro, les stations de métro, les rues de Paris, etc. Et en même temps, ce regard, cette tension du regard, cette concentration permet, comme tout médium, de passer de l'autre côté. Et de ce point de vue-là, tout a la même valeur, on peut dire. C'est pour ça que Jean Vienner, la musique est en direct, parce qu'elle est comme un dialogue. C'est comme quand Romère disait « Moi, je mets des bouquets de fleurs, mais les bouquets de fleurs, en fait, c'est comme un personnage. C'est la même chose, en fait. » Et les couleurs, on pourrait dire dans les films d'Éric Romère, ont exactement la même valeur qu'un acteur. On peut dire que le rouge d'un canapé. Chez Rivette, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, le monde est régi, un peu comme dans un jeu de tarot, qu'il a beaucoup cité, par un système de signes, des valeurs symboliques, et en même temps, une présence très charnelle, aussi bien des acteurs, de ce qu'ils disent, de leur silence. Quand ils disparaissent, ils sont aussi bien autant présents que dans une présence effective, etc. Donc il y a quelque chose comme ça, d'une forme de présence au monde. Hein, on l'a beaucoup qualifié de fantomatique, mais il y a une présence au monde qui est assez qui est d'une extrême intensité, en fait.
Vous savez ce que c'est, ça? C'est une clé de coffre de banque.
The bank with the $4 million have disappeared?
Bon, Elisabeth, elle n'a pas disparu. Elle a été kidnappée. Je l'ai trouvée dans la maison.
Qu'est-ce que c'est? Dans la maison? Dans la maison, elle a disparu. D'où elle a disparu? Vous savez ce que c'est que ça? C'est pour les asthmatiques. Votre père était asthmatique.
Oui. Il l'a enlevée parce qu'elle voulait l'argent. Ça.
Elle n'arrivait pas mort.
Non, c'est ce qu'elle m'a dit juste avant d'être enlevée.
Qu'est-ce que c'est?
J'ai reçu une carte comme ça, identique, il y a 3 ans.
Je vois pas. Lisez.
Cadet Roussel a 3 maisons qui n'ont ni poutre ni chevron, c'est pour loger les hirondelles. Que direz-vous de Cadet Roussel?
What's that mean?
Well, it's a nursery rhyme, you know, he's talking about a man who owns 3 houses.
Comment traduire Cadet Roussel en anglais? Il faut le traduire en anglais parce qu'il y a Joe D'Alessandro qui joue dans ce film, c'est Merry Go Round avec Maria Schneider. Alors là encore un film au tournage compliqué dont Jacques Rivette va disparaître aussi à un moment et puis tout le monde se fâche, Maria Schneider se fâche avec Joe D'Alessandro alors que c'est elle qui l'avait fait venir, ce qui fait que Rivette n'aimait pas beaucoup ce film qui est sorti seulement 5 ans après son tournage et l'ayant découvert, là je ne l'avais jamais vu, Merry Go Round, je trouve que c'est un film qui tient très très bien. David Farou.
Oui, bah c'est précisément un de ces films où les relances du récit dans des directions inattendues qui, au début, nous entraînent littéralement dans un jeu de piste hein, pour retrouver le personnage autour duquel se noue l'intrigue. Il y a un jeu qui devient à un moment donné particulièrement spectaculaire en tant que jeu. On entraîne les personnages qui viennent de faire connaissance dans une gare désaffectée où soudain un téléphone sonne et leur indique quel est le prochain endroit où ils doivent se rendre. Enfin, et il y a aussi quelque chose qu'on retrouve de film en film, c'est la forte présence des maisons comme lieu où se déposent des souvenirs qui ne peuvent pas toujours être dits, qui ne peuvent pas toujours être montrés, mais où s'est joué quelque chose de l'enfance, où se sont formées les névroses familiales, ou toutes sortes de choses de ce genre, et puis qui sont aussi un enjeu tout à fait matériel de succession, d'héritage, et on retrouve de film en film des maisons comme ça, qui sont un peu poussiéreuses, avec des housses sur les meubles, en attente, dans un entre-deux, dans l'attente de quelque chose. Mais Merry Go Round est un peu un film noir qui se serait ensoleillé dans la périphérie de Paris, avec comme règle à respecter de ne jamais rentrer dans Paris et de tourner autour.
C'est aussi un film de montage très étonnant, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des sortes de flashs où on ne sait pas si ce sont des images mentales, si c'est un flash forward, c'est-à-dire qu'on voit ce qui va se passer. Ce sont des scènes de poursuite à mort, hein, de lutte à mort entre un homme et une femme, entre Joe D'Alessandro et, alors ce n'est plus Maria Schneider, c'est Armin Karageus, qui lui ressemble d'ailleurs beaucoup, donc ça marche très bien sur le personnage, qui se poursuit dans la forêt en se tirant dessus au fusil, en lâchant des chiens, en se tirant à l'arc, ce qui fait qu'on ne sait jamais trop ce qu'on voit, cher votre garçon. Vous avez revu le film, je crois, ce matin pour l'émission.
Oui, c'est-à-dire, et eux-mêmes ne savent pas ce que le personnage dont on pense que c'est peut-être l'image mentale ou la prolepse, le flash-forward, ne sait pas. Et effectivement, mais c'est un peu le principe de la poursuite, c'est-à-dire que quelqu'un court, le type derrière dit « mais pourquoi vous courez ?»« Mais parce que vous courez après moi ?» Enfin, voilà, c'est le côté circulaire de la poursuite qui est là et mis en espace. Mais de même que je pense que la maison, peut-être, est la mise en espace du récit, quoi. C'est-à-dire que ça devient un espace, alors que nous, on attend quelque chose qui progresse. Et de même aussi que le jeu, l'aspect ludique de cette façon d'écrire, trouve des incarnations dans des jeux réels. Dans ce film-là, il y a un jeu ancien, un jeu français, où on lance des pièces ou des boules dans des trous, la grenouille ou le tonneau, qu'à un moment, dans une des vieilles maisons qui est utilisée par les personnages. À chaque fois, quelque chose de très concret à ce jeu.
Il y a toujours du jeu chez Rivette.
C'est quand même bizarre cette espèce de toile d'araignée sur Paris.
Non, c'est pas une toile d'araignée, c'est un grand dragon enroulé autour de sa queue.
Oui. Mais moi, ça me fait plutôt penser, plus je le regarde, à un jeu de loi.
Jeu de loi ? Connais pas. Connais pas ?
C'est un jeu d'enfant, un jeu de hasard. C'est composé par cases, alors il y a les bonnes cases et les cases mauvaises et les cases pièges. Et par exemple, le tombeau, c'est une case piège.
Le tombeau ?
Oui, tombeau. La mort.
La mort ?
Mais la mort, c'est aussi un recommencement. Tu commences le jeu. Enfin, de toute façon, c'est un jeu qui fait très peur.
Bulogier et Pascal Augier, c'est dans le Pont du Nord, avec donc cette carte de Paris dessinée façon jeu de loi, c'est le Pont du Nord, et c'est un film très important, je crois, parce qu'il est à la fois une façon de solder quelque chose, d'annoncer ce qui va suivre. Vous citez des propos, Hélène Frappa, de Jacques Rivette, qui est en entretien avec Marguerite Duras, qui dit « Le Pont du Nord, c'est un peu le trajet du deuil de la passion, et c'est en même temps le retour, 20 ans après Paris nous appartient, de Jacques Rivette à la rue parisienne. On a le personnage de Bulogier qui est claustrophobe, c'est tout le contraire, et donc qui permet d'expliquer pourquoi on n'est jamais en intérieur, mais c'est en même temps filmer le Paris s'en va. Certains éléments du tournage du Pont du Nord ont donné ce court-métrage Paris s'en va, qui en fait a financé l'intégralité du long-métrage. C'est à la fois un adieu à une période, mais ça va annoncer le Rivette qui vient, celui des films avec notamment Pascal Bonitzer des années 80-90 jusqu'aux années 2000.
Oui, je pense que c'est un film qu'il faudrait que les spectateurs contemporains voient pour comprendre quelque chose de ce qu'on vit maintenant. De même que aussi pour comprendre quelque chose de ce qu'on vit maintenant, il faudrait revoir certains films de John Carpenter. Et d'ailleurs, Rivette aimait beaucoup Carpenter. Et c'est très proche de certains films des années 80 sur la violence du réganisme, hein, qui revient, je pense, à notre époque encore plus fort. Et qui est montré aussi à ce moment de déchaînement libéral qui va s'attaquer à Paris. Hein, c'est un peu la curée de Zola. Alors Zola avait fait ce roman génial.
On est en 1981 voilà. Quand il tourne.
Donc Zola avait écrit le roman de la destruction de Paris par le baron Haussmann, hein, et un siècle après, Rivette va écrire le roman de la destruction de Paris par les promoteurs immobiliers. Alors la question de la maison, elle est cruciale effectivement, puisque la maison, c'est le moi, disait Freud, mais on pourrait dire que la maison, c'est le film. Et Rivette a cette expérience de spectateur, qui est l'expérience du cinéphile, du cinéaste, un peu folle, mais très très intense, qui est que dans la durée d'un film, on y habite comme dans... C'est notre maison, le film. Et il disait qu'il faisait des films exactement comme on visiterait une maison. Hein, on commence par le rez-de-chaussée, on monte les étages, et puis quand on est arrivé en haut, au grenier, le film est fini, en fait, quand on a visité toutes les pièces. Alors là, comment habiter un film, ou précisément à cause de manque d'argent. Donc là, on est vraiment dans la série B américaine. Concrètement, c'est des contraintes d'argent. Donc il n'y a pas d'argent pour faire un film qui soit tourné en intérieur, donc avec des lumières, un éclairage, etc., qui serait beaucoup plus cher. Et donc on va inventer une contrainte de fiction qui est le personnage est claustrophobe. Il ne peut pas rentrer à l'intérieur des lieux, et du coup, on n'aura pas à filmer des lieux qui seraient plus chers à filmer. Et en même temps, comment habiter ce film inhabitable, qui est un film où il fait froid, où on a froid, où c'est Paris l'hiver, et un Paris qui est absolument déchirant. C'est un film sublime, hein, de ce point de vue-là, et il faut se promener dans ces lieux qui, à un moment justement où les promoteurs immobiliers détruisent tout le nord de Paris, s'emparent de ce qui reste à détruire.
Notamment le chantier de ce qui sera le parc de la Villette.
Est-ce que c'est pas la destruction des abattoirs?
On voit exactement les abattoirs de la Villette.
Il y a les abattoirs de la Villette. Enfin, il y a tout ce qui restait encore à détruire. Et tout
Bercy aussi, on voit Bercy avant le parc.
Voilà. Et donc c'est ce Paris-là, arpenté par deux personnages, dont une Bulogier, qui va reprendre dans l'esprit de Rivette la suite d'un personnage qu'elle jouait dans un film de Fassbinder.
La troisième génération,
où elle jouait une terroriste qui avait fait de la prison. Donc il y a tout cet arrière-plan gauchiste, hein, parce que vous disiez à juste titre, il n'a pas filmé le pouvoir. Moi je pense qu'il avait une méfiance minoritaire, on peut dire, vis-à-vis du pouvoir majoritaire. En même temps, Rivette n'a cessé de filmer la lutte des classes. Qui est une des formes les plus terrifiantes de la manière dont le pouvoir ne cesse de s'actualiser. Hein. Et ces rapports de pouvoir avec des personnages très bourgeois qui humilient des personnages très prolétaires, on le voit dans tous les films de Rivette, y compris dans Duel. Juliette Berthaud endossant souvent ce rôle de la prolote parisienne, etc. Et donc il y a ce souvenir d'un film de Fassbinder, donc il y a cette idée du cinéma permanent. C'est-à-dire cette idée qu'au fond, quand on va voir un film de Jacques Rivette, il ne faut pas être décontenancé en fait. Parce que le film, il a commencé avant, et il continuera après. Et il y aura quelque chose comme ça, d'une magie absolue, qui fait qu'on pourra continuer même à y habiter. Hein, le rêve et l'aquarium de la nuit, disait Duel, c'est un vers de Victor Hugo. Mais c'est comme si, précisément, le substrat, un peu comme dans un roman de Modiano, le substrat, la matière même du film, était tissée de ses rêves, était tissée de tout ce côté médium. On revient à Victor Hugo encore une fois. Voilà. Et donc il y a ça, et en même temps, il arrive, et ça c'est quelque chose de fascinant, qu'il arrive à tenir les deux en même temps. Il y a une dimension documentaire extrêmement précise, vraiment de documenter un Paris qui est en train d'être détruit pour laisser une trace, laisser une archive, hein, au sens d'Alain René, au sens de Chris Marker, laisser vraiment une au sens de l'historien, qui va documenter ce qui est arraché au peuple de Paris, qu'on ne lui rendra plus, un peuple qui est jeté dehors d'ailleurs de Paris à cette époque-là. Et voilà, donc il y a ces deux choses-là, et c'est d'une mélancolie, d'une jubilation, c'est le jeu de loi, et en même temps d'une mélancolie absolument déchirante.
David Farou ?
Oui. Je crois que le postulat quand même autour duquel s'organise toute cette dimension réaliste ou parfois naturaliste du cinéma de Rivette, y compris l'héritage de Jean Renoir sur le son direct qu'il y a lieu de respecter très rigoureusement, et ça organise aussi le rapport à la musique dont on parlait tout à l'heure, mais le postulat c'est que le film s'adresse à l'imaginaire, et que je pense qu'une des dimensions politiques de Rivette, bien sûr qu'il y a une inscription de la lutte de classe, mais c'est aussi que chaque film est une réponse intempestive à sa conjoncture. Et qu'au moment où les gens dont sans doute il se sent le plus proche sont tous embarqués dans des aventures gauchistes, hyper politiques, lui il réclame en matérialiste qu'on reconnaisse les pouvoirs de la fiction et de l'imaginaire, et c'est les moments où il est le plus question de magie dans son cinéma, dans Duel, dans Céline et Julie vont en bateau. Et inversement, au moment du reflux politique très brutal à la fin des années 70 dans le Pont du Nord, c'est le moment où la politique fait presque explicitement retour dans son cinéma à travers des coupures de presse. Ça passe par des petites choses.
Mais toutes les affaires du septennat de Giscard sont invoquées. Hein, l'affaire de Breuil, Boulin, tous sont là. L'assassinat de Pierre Goldman, effectivement.
Un film fait dans la hantise que Giscard reste pour 7 ans de plus. C'est-à-dire que c'est un film qui doit nous aider à tenir en plein reflux dans l'hypothèse où Giscard resterait 7 ans de plus. Je crois que c'est un film très politique, en tant qu'il cherche à répondre à sa conjoncture.
Charlotte Garçon, un tout petit mot sur son merveilleux Pont du Nord.
Oui, c'est extraordinaire ce film, vraiment a tellement de... Puis son goût pour les actrices, enfin, bon, c'est deux actrices extraordinaires. Mais juste pour faire un peu un zoom arrière, il y a eu quand même en 66 deux ou trois choses que je sais d'elle de Godard, qui déjà parlait de tous les changements avec Paul de Louvrier, plutôt autour de Paris. Donc c'est aussi c'est excellent de suivre dans toute cette nouvelle vague, alors qu'on a souvent accusé la nouvelle vague d'être voilà, un petit club d'hommes qui faisait des jeux pas très importants, pas très reliés au réel. Donc c'est très beau, le Pont du Nord.
C'est pas si Roman Polanski pensait au Pont du Nord en baignant 7 ans plus tard le Paris de Frantic dans la version Grace Jones de Libertango. C'est l'original par Astor Piazzolla qu'on entend dans le Pont du Nord. Merci Hélène Frappa, merci David Farou. Céline et Julie vont en bateau et le Pont du Nord sont sortis en DVD Blu-ray chez Potemkin avec toute une flopée de bonus. Quant à Duel, Noroi et Merry Go Round, c'est toujours en DVD et en Blu-ray chez Carlotta. Et puis pour y voir un peu plus clair dans ces mystères, Jacques Rivette, Secret compris, d'Hélène Frappa est édité au Cahier du cinéma. Dans un tout autre genre, quoique, 4 films de Lucio Fulci, l'ancien élève d'Antonioni et de Visconti, devenu le grand poète du macabre italien, ressortent en salle à partir de mercredi prochain en version restaurée. Perversion Story, Le venin de la peur, La longue nuit de l'exorcisme et L'emmurée vivante, de quoi passer un été tout à fait terrifiant. Tout aussi coloré, le diptyque indien de Fritz Lang, Le tigre du Bengale et Le tombeau hindou ressort également en version restaurée le même jour. Et pour vous apaiser de tant d'émotions, vous admirerez la version là encore restaurée des Herbes flottantes de Yasujiro Ozu en salle toujours mercredi prochain. Il est l'heure à présent de partager encore un autre secret avec vous, chers auditeurs.
Tu sais, j'ai un petit enfant, un garçon qui s'appelle Swan. Son père n'a pas voulu le reconnaître, alors il porte mon nom. Quand il est né, son père devait venir le voir à la clinique. C'est un acteur et il tournait un film, ils en étaient à la fin. Et puis il n'est pas venu. Alors, quelques jours après, je suis allée le voir sur le plateau où il tournait, avec le bébé. Et là, je lui ai parlé 2 minutes, entre 2 prises, et il m'a dit qu'il allait reconnaître l'enfant. Et puis, je ne l'ai jamais revu.
Qui s'occupe de lui ?
Sa grand-mère. Pas ma mère à moi, mais sa mère à lui. Parce que je n'ai pas d'argent et je voyage tout le temps. Je trouve que c'est pas moral.
Je sais pas. Je veux pas d'enfant.
Si j'allais le chercher maintenant, tu m'attendrais ? Tu sais, c'est pas loin, il habite en banlieue, c'est à 1 heure de train. Tu m'attends si j'y vais? J'aimerais beaucoup que tu le connaisses. Tu sais, il est très beau, très drôle, enfin mieux que ça, et je suis sûre que tu t'entendrais bien avec lui.
T'es fière?
Oui. C'est l'homme de ma vie, comme on dit.
Vous aurez sans doute reconnu la voix d'Anne Wiazemski face à elle. Plus difficile à reconnaître, un autre modèle bressonien, Henri de Maublanc, c'était le Michel du Diable probablement. On est en 1979, à cette époque Philippe Garrel et la chanteuse Nico avaient tourné 7 films ensemble et puis ils se séparent. Et ce que raconte le cinéaste dans L'Enfant Secret, c'est pas leur séparation, c'est leur rencontre. Le film tourné en 1979 sort seulement 3 ans plus tard, en 1982. Il remporte le prix Jean Vigo et il est considéré rétrospectivement comme un tournant dans son œuvre, puisque après 15 ans de films expérimentaux, il commence, je vous cite Marco Souzal, je vais aux bonnes sources, dans votre article de Libération sur l'amant d'un jour, Philippe Garrel commence à se retourner sur son passé pour en faire la matière d'une œuvre que l'on pouvait alors qualifier d'autobiographique. Philippe Garrel, je vous cite encore, n'a au fond filmé qu'une chose, des rencontres, des séparations et entre les deux, des amours, se promettant l'éternité avant de sombrer trop tôt, ce qui est quasiment parfaitement le synopsis de L'Enfant Secret, Marco Souzal.
Oui, et puis on peut dire que ce sera le synopsis de la plupart de ces films à partir de celui-ci, qui est non seulement l'un de ses plus beaux films, mais vraiment effectivement une charnière dans son œuvre. Alors, rappelons un peu qui était Garrel quand il fait ce film en 79. Il a 31 ans, mais il a déjà une longue filmographie, il a fait 15 films. On raconte qu'il a fait son premier court-métrage à 13 ans, un film qu'il a détruit plus tard, qui s'appelle Une plume pour Carole. Et puis ensuite, à 16 ans, il va réaliser Les Enfants désaccordés, qui est déjà une petite merveille. Donc, c'est un cinéaste très, très précoce, qui va être remarqué surtout pour Marie pour mémoire en 67. Et cette précocité extrêmement talentueuse, la dimension éminemment poétique de ses films, leur liberté comme ça radicale, lui vaudront le surnom de Rimbaud du cinéma. Et pendant toute cette première période, entre ses 16 ans et ses 30 ans, disons, ses films et sa vie vont être totalement entremêlés. Il va alors en quelque sorte transfigurer en direct, on pourrait dire, ses amours, ses amitiés, ses rêves. Il y a une dimension très onirique dans son cinéma de l'époque, mais qui va quand même demeurer jusqu'à aujourd'hui encore. C'est quelqu'un qui s'inspire encore beaucoup de ses rêves, ce qui est une de ses singularités. Et ces films sont comme des, on pourrait dire, des visions poétiques arrachées à un journal intime. Ce sont souvent des films muets, ou avec très très peu de dialogue, parce que c'est un cinéaste avant tout de l'image, il le revendique, que l'on pourrait presque le qualifier de primitif, tant il semble opérer une sorte de retour aux sources, à Lumière, à Murnau, à Epstein, un cinéma d'avant la parole. Il dira d'ailleurs que pour lui, l'image est du côté de l'irrationnel, tandis que le son est du côté du rationnel. Donc L'Enfant Secret, même si c'est encore un film très marqué par le muet, où les dialogues sont encore rares, ceux-ci vraiment prendront de l'importance à partir d'un film un peu plus tardif qui est Les Baisers de secours. L'Enfant Secret représente néanmoins un tournant, d'abord parce que Garrel, il prend du recul sur sa vie, vous l'avez évoqué, hein, cette distance qui sépare, disons, le journal intime de l'autobiographie. Ça passe par une forme, une nécessité de passer par la narration. Lui-même dira qu'il est passé avec ce film de la poésie à la prose. Et puis, donc, c'est un film qui est moins nourri par ce qu'il vit que par ce qu'il a vécu. Et donc, en l'occurrence, effectivement, des événements très marquants de sa vie, qui reviendront dans plusieurs de ses films. Son histoire d'amour avec Nico, chanteuse et Géry de Warhol, une histoire d'amour passionnée, complexe, marquée par la toxicomanie de Nico, et par le séjour que Garrel a passé en hôpital psychiatrique et pendant lequel il a subi des électrochocs. Donc c'est un des grands traumatismes de sa vie. Et L'Enfant Secret du film, si on veut trouver la clé autobiographique, c'est ce Swan, c'est Harry Boulogne, l'enfant que Nico a eu avec Alain Delon, que Delon n'a jamais reconnu et qui a été recueilli par la mère de Delon.
Qu'est-ce que tu fais ?
J'envoie une carte postale à Swan.
Tu l'as mis ?
Mon chéri, je ne suis pas encore partie pour Londres. Ta mamie me dit que tu es très content. Nous irons cet hiver tous les deux, si ta mamie veut bien. Tu n'as jamais vu un endroit aussi beau. Mais il ne faut surtout pas que tu te coupes les cheveux, sauf la frange. C'est très important pour le film, nous allons continuer. Ta maman.
Est-ce que les pensées, les regards, les mots d'amour et les secrets gardent leur valeur quand on les exhibe devant les autres comme ça. J'ai envie de tout abandonner.
C'est comme si j'étais en exil à l'intérieur de moi-même.
Voilà, alors est-ce que les pensées, les regards, les secrets, les mots d'amour gardent leur valeur quand on les exhibe devant les autres comme ça? Voilà la question que pose ce personnage de cinéaste dans le film, qui est bien sûr un alter ego de Garel lui-même. Et c'est la grande question de son cinéma, et qui se pose d'une façon nouvelle à partir de cette époque, c'est-à-dire comment restituer la force de l'intime, l'incandescence d'un amour, la douleur d'une séparation, sans les exhiber, sans en faire un spectacle indécent. Et on peut dire que c'est en cinéaste qu'il y répond, en poète. D'abord par sa manière de tourner, c'est pas du tout quelqu'un qui va reconstituer sa vie, il va la rejouer presque au présent, retrouver une sorte d'intensité du présent à chaque plan. C'est quelqu'un qui fait, on le sait, qui tourne dans l'ordre et qui tourne une seule prise à chaque fois. Donc il y a une sorte de risque à chaque fois, qui donne une présence incroyable, une incandescence incroyable à ses plans. On peut dire aussi qu'il le fait à travers, d'une certaine manière, la matière même du cinéma, cette matière de la pellicule qui est rendue sensible par le noir et blanc, ce grain du noir et blanc. La matière du cinéma, c'est aussi le fait de laisser les plans, les prises jusqu'au bout, jusqu'à ces surexpositions de fin de bobine, de laisser même le son de la caméra. Et on peut dire que c'est cette matière presque qui constitue l'espace de l'intime, hein, où baignent les personnages, les visages, les corps, tout ce qui circule entre eux, comme si le cinéma était cette matière poétique qui donnait forme à l'intime, et qui est ce que j'appellerais une sorte de photogénie de l'intime. Et à l'intérieur de ça, cet enfant secret représente presque l'enfance même du cinéma. Garel le montre explicitement, notamment dans ses plans où il accompagne des images de l'enfant d'une musique de Chaplin, ou aussi dans ses autres plans très très frappants où il filme, il ralentit l'image de l'enfant sur un écran de mur viola, où tout d'un coup ressort tout le grain, toute la matière même de la pellicule. Alors il y a une phrase qui est restée célèbre dans ce film, qui est que Nico aurait vraiment dit à Garel, qui est « tu as une caméra à la place du cœur », qu'on peut interpréter de deux manières, c'est-à-dire « tu n'as pas de cœur » ou alors « tu filmes avec ton cœur ». Voilà, ce sont les deux choses à la fois, qui l'ambiguïté du cinéma de Garel, son dilemme.
Merci Marco Souzal. L'Enfant secret est édité par Revoir Vidéo, avec un livret comprenant un texte de Serge Danet, un entretien de Philippe Garel avec Thomas Lescure et le scénario du film. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, l'inévitable Jean Frédérics. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina et Milena Elig. La semaine prochaine, notre franc-tireur estival sera Larry Clark. Nous serons en compagnie d'Adrienne Boutan et de Fernando Ganzo, ainsi que d'Axel Cadieux, qui en fin d'émission nous parlera d'un film incompris de Paul Verhoeven, comme la plupart de ses films, vous me direz, Showgirl. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, votre moment proustien avec Antoine Compagnon.